C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. À 18h35, le 13 novembre 1974, la police du comté de Suffolk, à New York, reçoit un appel de Joey Yeswit. Le jeune homme explique qu'un certain Ronald DeFeo Jr. est passé au bar où il se trouvait pour dire qu'il venait de trouver toute sa famille assassinée. Yeswit raconte que lui et d'autres personnes ont accepté de l'accompagner jusque chez lui, une résidence sise sur Ocean Avenue à Amityville, où ils n'ont pu que constater l'horrible drame. Yeswit parle de 4 victimes. C'est du poste de la maison qu'il téléphone. Les policiers du comté de Suffolk et ceux d'Amityville mettront moins de 10 minutes pour débarquer au 112 Ocean Avenue. Il s'agit d'une grande maison à 3 étages de style colonial hollandais. Sur la pelouse, une petite enseigne porte l'inscription « High Hopes », les grands espoirs. En parcourant les lieux, ce n'est pas 4, mais 6 corps qu'ils découvrent. Tous sont encore dans leur lit, ce qui présume qu'elles ont été abattues dans leur sommeil. Dans la grande chambre du premier étage, il y a les propriétaires, Louise, 42 ans, et Ronald DeFeo Sr., 43 ans. Ils ont reçu chacun 2 balles d'un puissant calibre. En face se trouve la chambre de leur fille Allison, 13 ans. L'adolescente a été atteinte au visage. La pièce d'à côté, face à la rue, est la chambre de Mark et John. Les deux garçons, âgés respectivement de 11 et 9 ans, ont été abattus d'une balle dans le dos. Les enquêteurs croient que l'assassin se tenait debout entre les lits jumeaux lorsqu'il a fait feu. Enfin, au dernier étage, ils trouvent le corps de Dawn DeFeo, 18 ans. À l'instar des autres victimes, elle est étendue sur le ventre. Le tueur lui a logé une balle à bout portant derrière la tête. Au total, l'assassin a tiré 8 fois. Il s'agit du pire crime à survenir à Amityville, une petite agglomération d'un peu moins de 10 000 âmes située sur la côte sud de Long Island. Le seul survivant de la famille est l'aîné des garçons, Ronald Jr., 23 ans, surnommé Butch. C'est lui qui a découvert les corps. Lorsque les enquêteurs interrogent Ronald Jr., celui-ci raconte que, la nuit précédente, il a regardé Castle Keep à la télévision, un film de guerre mettant en vedette Burt Lancaster. Il s'est couché aux alentours de 2 heures du matin. Comme il avait de la difficulté à dormir, il s'est relevé et a quitté la maison vers 4 heures pour se rendre au boulot. Il occupe un emploi de commis chez Brigante Carl Buick, un concessionnaire automobile du côté de Coney Highland. L'entreprise est la propriété de Michael Brigante, son grand-père maternel. Son père Ronald Sr. y travaille également. Au moment de quitter la maison, assure-t-il, toute sa famille dormait paisiblement. C'est en rentrant du travail, vers 18 heures, qu'il a découvert les corps. Quand les policiers lui demandent s'il a une idée sur qui aurait pu commettre un tel carnage, Ronald identifie un homme de main de la mafia avec lequel son père aurait eu un différend. Ronald DeFeo n'est pas inconnu des policiers d'Amityville. Ses sautes d'humeur sont notoires. On raconte que lui et son père ne s'entendaient pas et qu'à plusieurs reprises, il aurait menacé de le tuer. Le jeune homme est aussi fiché pour sa consommation d'alcool et de narcotiques, principalement le LSD et l'héroïne. Les autorités le suspectent également de délits mineurs. Il est d'ailleurs sous contrôle judiciaire pour avoir volé un moteur hors bord dans une marina locale et pour possession de drogue. Avec les heures qui passent, Ronald DeFeo devient le principal suspect. Les policiers ont trouvé dans sa chambre des cartouches pour une carabine Marlin de calibre 35, mais aucune trace de l'arme. Or, c'est ce type de carabine qui a servi à abattre les DeFeo. Lorsque les enquêteurs lui demandent s'il possède ou a déjà possédé une telle arme, Ronald dit l'ignorer. Il avoue toutefois s'être débarrassé récemment d'une carabine qui fonctionnait mal. Il ignore cependant de quel calibre il s'agissait. En interrogeant ses amis, Les policiers apprennent que Butch DeFeo était à la recherche d'un silencieux pour sa carabine. Plus inquiétant, le rapport du médecin légiste confirme que les victimes ont été tuées entre 2h et 4h du matin, ce qui signifie qu'elles ont été abattues alors que Ronald était encore dans la maison. Pour les enquêteurs, le rôle de ce dernier apparaît de plus en plus sinistre. 36 heures après les meurtres, les enquêteurs informent Ronald qu'ils le suspectent d'être l'auteur de la tuerie. DeFeo nie. Il raconte une nouvelle histoire. Des inconnus se seraient introduits dans la maison et auraient abattu tous les occupants. Il aurait échappé au massacre en se cachant dans la salle de séjour au premier étage, là où se trouvait le téléviseur, une chambre adjacente à celle de ses parents. Hélas, son récit ne cadre pas avec les faits. Il n'y a aucun doute que l'arme du crime était sa propre carabine Marlin de calibre 35. Difficile d'imaginer des tueurs débarquant chez leur future victime sans arme. Les enquêteurs n'ont pas trouvé non plus de douille vide, ce qui suppose que les assassins les auraient récupérés pour s'en débarrasser ailleurs. Là encore, pourquoi des tueurs auraient-ils pris le temps de faire ce nettoyage? Ronald DeFeo se rend compte que la partie est jouée. Il avoue. « Quand j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter », dit-il. Tout cela a été très vite. Il détaille ensuite les terrifiants événements survenus 2 jours plus tôt. Il raconte s'être réveillé vers 3h du matin. Il s'était assoupi devant le téléviseur. Les images de Castle Keep défilaient toujours à l'écran. Il est monté dans sa chambre, dans la mansarde, où il a pris sa carabine Marlin qu'il a chargée à bloc. Il est ensuite redescendu au premier, où il a abattu ses parents. Après, tout s'est passé très vite. Il a tué Allison, Mark et John, qui dormaient tous dans des chambres au premier. Puis il est remonté au dernier étage. Sur le palier, il s'est retrouvé nez à nez avec Dawn, qui, exceptionnellement, dormait dans la chambre d'amis. La jeune femme, encore tout endormie, lui a demandé ce qui se passait. Il lui a répondu que tout allait bien et qu'elle pouvait retourner se coucher. Il a attendu quelques secondes, le temps qu'elle se remette au lit, puis a ouvert la porte et l'a abattue d'une décharge derrière la tête. Il a ensuite récupéré les douilles vides qu'il a placées avec ses propres vêtements dans une tête d'oreiller. Il a pris une douche, s'est habillé et est parti pour Coney Island. En route, il a jeté la carabine dans un canal donnant sur la rivière Amityville, tout près de chez lui, et la tête d'oreiller dans une bouche d'égout à Brooklyn. Sur la foi de ces révélations, les policiers retrouvent les pièces incriminantes. Ronald DeFeo Jr. est formellement accusé du meurtre des 6 membres de sa famille. Le procès de Ronald DeFeo Jr. débute le 14 octobre 1975. L'avocat de la défense, William Weber, entend bien démontrer que son client souffrait de problèmes mentaux lors de la tuerie du 13 novembre 1974, qu'il entendait des voix et qu'il était persuadé que Dieu s'adressait à lui. Il entend aussi démontrer que Ronald n'a pas agi seul. Sa sœur Dawn aurait aussi participé au carnage. C'est elle qui aurait abattu les enfants. Si le procureur, Maître Gérard Sullivan, admet que DeFeo présente des traits antisociaux, ses actions la nuit des meurtres prouvent en revanche qu'il était conscient de la portée de ses gestes. Quant à l'implication de Dawn DeFeo, le procureur qualifie ce scénario de fable. En accusant sa sœur, croit le procureur, Ronald lui fait porter l'odieux du meurtre des enfants. Et quand on sait le sort réservé aux agresseurs d'enfants derrière les murs, Ronald a tout intérêt à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est aussi l'avis des jurés qui, le 15 novembre, déclare Ronald DeFeo Jr. coupable de tous les chefs d'accusation. Le 4 décembre, le juge, Thomas Stark, le condamne à 125 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Alors que les portes du pénitencier Clinton de Dannemora, dans le nord de l'État de New York, s'ouvrent pour accueillir le meurtrier de 24 ans, un jeune couple de Deer Park acquiert l'austère et vacante demeure des DeFeo. L'acte d'achat est signé le 18 décembre 1975. Le jour même, George et Kathy Lutz et leurs 3 enfants, Daniel, 9 ans, Christopher, 7 ans, et Melissa, 5 ans, emménage au 112 Ocean Avenue. George Lutz, 28 ans, dirige une société d'arpentage qui bat de l'aile, la William H. Perry Incorporated. Lui et sa nouvelle épouse, Cathy, âgée de 30 ans, cherchaient une maison dans les 50 000 $. En consultant les agences immobilières, ils ont appris qu'une grande propriété d'Amityville était à vendre. Elle comptait 6 chambres, un salon, une salle à manger, une véranda fermée, un garage, une piscine creusée et un hangar à bateaux. Le prix demandé, 80 000 $. Les Lutz ne sont pas des imbéciles. Ce genre de propriété en vaut le double. À ce prix, il devait y avoir quelque chose de pas catholique. Ce quelque chose, ils l'ont appris en visitant les lieux. L'agente immobilière les a informés que la maison avait été le théâtre de 6 meurtres horribles, ceux de la famille Defeo. Mais les Lutz, qui ne sont pas superstitieux, ont décidé d'acheter malgré ce passé macabre. Le 18 décembre 1975, la famille emménage donc au 112 Ocean Avenue. Mais apparemment, ils ne sont pas les seuls locataires. Dès la première journée, des phénomènes étranges se produisent. Un prêtre, venu bénir les lieux à la demande des Lutz, est littéralement chassé par une voix gutturale qui lui dit
« Va-t'en ».
C'est le début de ce qui va devenir la plus célèbre histoire de hantise du 20e siècle. Au début, les manifestations sont banales, presque anodines, mais les choses vont crescendo. Des portes s'ouvrent toutes seules, d'autres sont pratiquement arrachées de leurs gonds. Des objets, mus par des forces invisibles, se déplacent aux étages. Des centaines de mouches, malgré une température extérieure de moins 14 degrés centigrades, envahissent une chambre du premier étage. Des dépôts noirs et nauséabonds entachent les cuvettes des toilettes. Pire, des substances visqueuses, jaunâtres et verdâtres, suintent des plafonds, des cadres de portes et même des serrures. Cathy Lutz commence alors d'étonnantes séances de lévitation sous les yeux médusés de son époux. Des tempêtes d'une violence inouïe s'abattent uniquement sur la résidence des Lutz. Les enfants sont aussi témoins de phénomènes étranges. Ils évoquent des apparitions spectrales et terrifiantes. La cadette de la famille, la petite Melissa, parle même d'un cochon fantôme qui lui aurait dit s'appeler Judy. Les personnalités se transforment également. Les enfants deviennent plus turbulents. Cathy, d'un tempérament agréable, devient plus agressive. Et George perd tout intérêt dans son travail et explose à la moindre contrariété. Le 14 janvier 1976, après seulement 28 jours dans ce qu'ils imaginaient être la maison de leurs rêves, les Lutz fuient leur propriété pour ne jamais y revenir. Pour l'immédiat, ils s'installent chez la mère de Cathy à Babylon, à quelques kilomètres à l'est d'Amityville. Ils ont besoin d'une pause pour décanter leurs terrifiantes expériences des dernières semaines. Mais même loin du 112 Ocean Avenue, ils continuent de ressentir ces présences maléfiques. Sur les conseils du père Ralph Pecorara, celui-là même qui s'est fait chasser de l'ancienne demeure des Defeo, les Lutz téléphonent à la Psychical Research Foundation de Durham, en Caroline du Nord, pour se confier. Ils contactent aussi William Weber, l'avocat de Ronald Defeo Jr. Les Lutz ont appris, en effet, que durant son procès, l'assassin avait soutenu avoir entendu des voix fantomatiques. Ces voix auraient-elles un lien avec leurs propres expériences? Leur histoire intéresse beaucoup l'avocat, qui songe à faire appel pour son client en évoquant une défense de possession diabolique. Avec tous ces gens dans la confidence, la hantise d'Amityville est devenue un secret de polichinelle. Le 14 février 1976, le quotidien Newsday publie un article sur cette affaire.
La maison abandonnée des Defeo serait hantée, affirment les nouveaux propriétaires.
Le journaliste ne cite pas sa source, mais les Lutz suspectent William Weber d'être responsable de cette fuite. Quoi qu'il en soit, le chat est hors du sac et rien ne peut plus arrêter cette hémorragie. Deux jours plus tard, profitant de l'article de Newsday, William Weber organise une conférence de presse. Les Lutz en sont les vedettes. L'avocat explique que leur expérience confirme que son client, Ronald DeFeo Jr., était bel et bien possédé la nuit où il a tué sa famille. De leur côté, questionnés par les journalistes, les Lutz sont avares de commentaires. George se contente de dire que lui et sa famille ont quitté leur résidence du 112 Ocean Avenue parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Au fil des semaines, les Lutz se retrouvent entourés de gens qui ont un intérêt dans la hantise d'Amityville. Parmi eux, Laura Didio, l'une des responsables de l'information pour la chaîne de télévision new-yorkaise Channel 5. Didio entend bien obtenir l'exclusivité télévisuelle de l'affaire. C'est elle qui propose aux Lutz d'entrer en contact avec les Warren. Ed et Lauren Warren sont des démonologues de Monroe, au Connecticut. Ils sont considérés comme les experts pour tout ce qui touche les phénomènes de hantise et de possession. En 1952, ils ont fondé la New England Society for Psychic Research. Le couple aurait enquêté sur des milliers de cas de maisons hantées. Le 6 mars 1976, les Warren débarquent à Amityville sous les caméras de Channel 5. Sont également présents Mary Pascarella Downey, une médium de New Haven, au Connecticut, deux chercheurs de l'American Society for Psychical Research de New York et trois enquêteurs de la Psychical Research Foundation de Durham, en Caroline du Nord. Le groupe commence par faire une visite de la propriété. Mary Pascarella Downey et Lauren Warren, qui se dit aussi médium, affirment ressentir diverses présences. D'après Lauren, il n'y aurait pas seulement les âmes des défunts DeFeo, mais une entité négative, non humaine et diabolique. C'est cette entité qui aurait possédé Ronald DeFeo la nuit des meurtres. Le même soir, le groupe se réunit dans la salle à manger pour y tenir une séance. Les esprits que canalise Mary Pascarella Downey n'éclairent en rien la nature des manifestations. Mais avec ses grognements et ses soubresauts, la spirit donne un spectacle inoubliable aux téléspectateurs de Channel 5. Durant cette même soirée, un appareil photographique installé au premier étage, devant ce qui était autrefois la chambre d'Allison DeFeo, capte l'image d'une figure fantomatique qui semble regarder par l'entrebâillement de la porte. C'est à cette époque que les Lutz contactent Tam Mosman, un éditeur chez Prentice Hall Books au New Jersey. Il lui explique qu'ils sont les Lutz de l'histoire d'Amityville et que, considérant tous les mensonges qui circulent à leur sujet, ils aimeraient offrir leur version des faits. Mosman est très enthousiaste. Il les met en contact avec son ami auteur Jay Hansen. Celui-ci ne connaît à peu près rien de l'histoire d'Amityville. Les Lutz lui remettent une trentaine d'heures d'enregistrement audio où ils racontent en détail leurs 28 jours d'angoisse dans l'ancienne demeure des DeFeo. Le livre « The Amityville Horror »,« Amityville, la maison du diable », sort en librairie en septembre 1977. Jay Hansen y présente le récit des Lutz comme un journal décrivant au jour le jour les manifestations du 112 Ocean Avenue. Le livre, étiqueté comme une histoire vraie, se hisse rapidement en tête des best-sellers. Le 27 juin 1979, le film The Amityville Horror, adapté du livre de Jay Hansen, mettant en vedette James Brolin et Margot Kidder dans les rôles des époux Lutz, sort sur les écrans. Uniquement aux États-Unis, il va engranger des recettes de plus de 80 millions de dollars. Depuis, l'histoire des Lutz a accouché de nombreuses suites littéraires et cinématographiques, et ce au grand dam des nouveaux propriétaires du 112 Ocean Avenue et des habitants d'Amityville. L'ancienne demeure des DeFeo est devenue une attraction touristique. Chaque année, des centaines de curieux défilent devant la résidence qui, en dépit de quelques altérations esthétiques, dont la disparition des fameuses fenêtres en quart de lune, a gardé ses lignes caractéristiques. La hantise d'Amityville. Dossier 1975-1218. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. L'histoire, ou l'affaire d'Amityville, comme on la présente souvent, est l'une des plus complexes que je connaisse. Non pas à cause de la problématique des manifestations, mais à cause des mensonges de tout un chacun. D'un côté, il y a ceux qui croient que toute cette histoire a été inventée par les Lutz, et de l'autre, ceux qui restent persuadés de la réalité de ces manifestations. Leur démarche tient souvent plus de la croisade fanatique que de la quête de la vérité. Ajoutez à cela les meurtres de la famille Defeo, dont les interprétations vont du familicide à la possession diabolique, en passant par la théorie du complot, et vous vous retrouvez vite avec une énigme digne d'un nœud gordien. Et si ce n'était que cela? Avec les années, l'affaire d'Amityville est devenue un business où des dizaines de participants ont réclamé leur part du gâteau. Cette prétendue hantise n'est plus une histoire de fantômes, mais une affaire d'argent. Et dans ce panier de crabes, les crustacés se transforment vite en requins. J'ai découvert l'histoire d'Amityville à la fin des années 1970. Un ami m'avait donné une copie du livre de Janssen que j'ai dévoré en deux soirées. Sa publication coïncidait aussi avec la sortie au cinéma d'Amityville, La Maison du Diable, film qui, je l'avoue, m'a donné quelques frissons. D'entrée de jeu, disons que l'affaire d'Amityville n'aurait jamais connu une telle popularité sans le prélude des meurtres des féaux. Pour beaucoup, le mystère commence d'ailleurs par cette terrible nuit du 13 novembre 1974. Que s'est-il vraiment passé au 112 Ocean Avenue? Lors du procès de Ronald DeFeo Jr., qui s'est tenu à l'automne de 1975, plusieurs experts ont contesté la version du procureur. Selon Gérard Sullivan, et d'après une confession de Ronald DeFeo Jr. à la police de Suffolk County, l'assassin a réagi seul. Vers 3 heures du matin, il aurait pris sa carabine Marlin pour abattre systématiquement tous les membres de sa famille. Pas de complice, pas de démon. Son motif? Une police d'assurance-vie de 200 000 $ dont il devenait le bénéficiaire, advenant la mort de ses parents. Mais cette version n'est pas la seule que l'assassin a donnée à la police et à ses avocats, William Weber et Jacob Siegfried. Entre son arrestation et la tenue de son enquête préliminaire, DeFeo a changé plusieurs fois sa version, accusant tantôt les sbires de la mafia, tantôt sa sœur Dawn, avec laquelle une rumeur lui prêtait des relations incestueuses, et tantôt une mystérieuse présence aux mains gantées de noir. Les médias ont aussi relevé des anomalies. Comment expliquer que toutes les victimes aient été retrouvées dans leur lit? Pourquoi ne se sont-elles pas réveillées au bruit des détonations? Avaient-elles été droguées? Comment expliquer qu'aucun coup de feu n'ait été entendu par les voisins, qui pourtant n'habitaient qu'à quelques dizaines de mètres? Les tests toxicologiques réalisés lors de l'autopsie des victimes indiquent que les DeFeo ont tous été abattus par des projectiles tirés par une carabine Marlin de calibre 35, ce qui suggère un seul tueur, et aucune trace de drogue n'a été découverte dans leur sang ou dans leurs urines. Les victimes étaient toutes sobres au moment de leur mort. Mais, dans ce cas, comment expliquer qu'elles ne se soient pas réveillées? Ronald Senior et Louise ont été tués en premier. Ils ont été atteints de deux coups de feu chacun, mais l'angle de pénétration prouve que l'assassin s'est déplacé entre les tirs. Cela suppose qu'il a d'abord tiré une fois sur chacune des victimes, avant de se rapprocher et de les viser à nouveau. Dès la première détonation, les victimes se sont probablement réveillées, mais avant de comprendre ce qui leur arrivait, elles auront été abattues. Trois enfants dormaient au même plancher, Allison, Mark et John. Les enfants se sont peut-être réveillés, mais, paralysés par la peur, ils auront préféré ne pas bouger. Mark DeFeo souffrait d'une blessure au dos qui l'empêchait de se déplacer. Sur les photos de la scène du crime, on peut voir son fauteuil roulant juste à côté de son lit. Il est possible aussi que les jeunes ne se soient pas réveillés. Tous les parents savent comment les enfants peuvent dormir d'un sommeil profond. On peut les déplacer d'une pièce à une autre, ou même parfois d'une maison à une autre, sans qu'ils se réveillent. Quant à Dawn DeFeo, Ronald a raconté qu'en arrivant dans la mansarde, elle était debout devant la chambre d'amis. Il lui a dit d'aller se recoucher. Dès qu'elle s'est remise au lit, il l'a abattue. Quant aux voisins, ils ont raconté que, vers 3 heures du matin, le chien des DFO s'était mis à aboyer, ce qui a sans doute couvert les détonations provenant de la maison. Certains auteurs ont souligné qu'un détective engagé par William Weber, l'avocat de DFO, avait trouvé des particules de poudre non brûlées sur la chemise de nuit de Dawn DFO, supposant que la jeune femme avait également fait feu avec l'arme du crime. Mais dans les faits, les vêtements de la victime étaient beaucoup trop souillés de sang pour distinguer les particules brûlées, consécutives d'un tir à bout portant, des particules non brûlées. Il faut se rappeler que la science médico-légale des années 1970 était bien loin des techniques d'aujourd'hui. Pour l'heure, la seule personne qui ait jamais su avec certitude ce qui s'est passé cette nuit-là était le prisonnier 75A40-53, Ronald DFO Jr. Hélas pour l'histoire, l'auteur reconnu de la tuerie est mort le 12 mars 2021 à l'âge de 69 ans. Il était toujours incarcéré au pénitencier Green Haven de Beekman, au nord de New York. Durant son procès et ses longues années d'incarcération, Ronald DFO a proposé plusieurs scénarios des événements, mais lequel choisir? Peut-être aucun. Dans une lettre adressée il y a quelques années à l'animateur radiophonique Lou Gentle, DFO a écrit
« Je suis la seule personne vivante qui connaît l'histoire et je ne l'ai jamais racontée, ni à la police, ni au district attorné, ni à la cour, ni à la commission des libérations conditionnelles, ni à aucun auteur. »
L'art du suspense poussé à l'indécence. Au-delà des spéculations sur l'identité d'un hypothétique complice dans les meurtres de la famille DFO, un candidat peut être écarté. Le diable. Durant son incarcération, Ronald DFO Jr. a maintes fois réitéré que toutes ses histoires à propos de voix fantomatiques ou de quelques présences surnaturelles à Amityville étaient des bobards imaginés par son avocat, William Weber, pour appuyer sa défense de maladie mentale. Ce qui nous renvoie au récit des Lutz. Dans leur histoire, deux choses sont certaines. Ils ont aménagé au 112 Ocean Avenue le 18 décembre 1975 et ils ont quitté les lieux 28 jours plus tard, le 15 janvier 1976. Et encore, des témoins ont raconté que les Lutz étaient retournés au 112 Ocean Avenue pour y faire une vente de garage. Si on retourne à l'origine de cette hantise, on est frappé par la manière dont les Lutz ont progressivement gonflé leur récit. À chaque fois qu'ils s'adressaient aux médias, ils lui injectaient un peu plus de stéroïdes. Lors d'une conférence de presse organisée le 16 février 1976, un mois presque jour pour jour après avoir fui le 112 Ocean Avenue, George Lutz a déclaré aux journalistes
« Il n'y avait aucun objet qui flottait dans l'air, ni aucun gémissement. Mais nous sommes partis parce que nous craignions pour notre sécurité. Il y a une force très puissante là-bas. »
6 semaines plus tard, le couple se confie au journaliste Paul Dougherty du tabloïd The Star. George parlait alors de meubles qui se déplaçaient tout seuls et d'une porte de 100 kilos qui aurait été arrachée de ses gonds. On est loin ici des déclarations du mois de février. Pendant plus d'un an, les Lutz se sont ainsi prêtés au jeu des médias, transformant leur histoire en une possession diabolique digne de l'exorciste. Tous les ingrédients y étaient. Apparitions spectrales, voix gutturales et meubles qui bougent. Puis, en septembre 1977, le livre de Johansson, The Amityville Horror, dont les Lutz touchaient 50% des royautés, est sorti en librairie. Ce fut un succès immédiat. À ce jour, uniquement aux États-Unis, le livre a vendu plus de 10 millions de copies. La plupart des sceptiques ont cherché à déboulonner l'affaire d'Amityville en comparant la version du livre aux événements factuels et vérifiables. Si l'exercice est nécessaire, après tout, The Amityville Horror est présenté comme une histoire vraie, il faut se rappeler que le livre n'a pas été écrit par les Lutz, mais par Johansson. Pour ce faire, L'auteur a utilisé essentiellement des enregistrements audio où les Lutz racontaient leurs expériences. Jansen n'a jamais rencontré les Lutz durant son processus d'écriture et n'a pas non plus enquêté sur les faits allégués par les Lutz. De ses propres aveux, il a aussi beaucoup brodé autour du récit. Tant et si bien qu'il est impossible de savoir quels éléments sont tirés du témoignage des Lutz et quels éléments ont été embellis ou forgés par l'auteur. A.J. Hansen n'est plus là pour le dire. Il est décédé en 1980. Dans The Amityville Horror, l'auteur décrit, par exemple, une visite de Jody, le cochon fantôme. Au soir du 1er janvier 1976, George a poursuivi l'animal jusque dans le jardin. Le lendemain, en retournant à l'extérieur, il a remarqué dans la neige d'étranges empreintes en forme de sabots fourchus. Celles-ci allaient de la maison au garage. Puis, en y regardant de plus près, George a découvert que la porte du garage avait pratiquement été arrachée de son cadre. Il a contacté la police d'Amityville, qui a dépêché sur place l'agent Lou Zamataro. Plusieurs éléments clochent dans cette anecdote, et le livre de Jansen en fourmille. J'ai moi-même vérifié auprès de la police d'Amityville s'il y avait un rapport concernant cet incident. Non seulement on m'a assuré qu'il n'en était rien, mais on m'a ajouté que le sergent Patrick Pat Camaroto, appelé Zamataro dans le livre, ne s'était jamais rendu au 112 Ocean Avenue durant l'occupation des Lutz. Autre problème, en vérifiant auprès du service météorologique, j'ai appris que le 1er janvier 1976, il n'y avait aucune accumulation de neige au sol à Amityville. Mais ces inconsistances, que je pourrais multiplier ad nauseam, sont l'arbre qui cache la forêt. Ce qui a pourri l'affaire d'Amityville et l'a complètement discrédité, ce ne sont pas autant les fables du livre de Jansen que les déclarations publiques des principaux intéressés et l'argent. J'ai commencé à enquêter sur l'affaire d'Amityville en 1985, quelques années après avoir lu le livre. J'ai vite identifié le cancer qui la rongeait. Un mois après avoir quitté le 112 Ocean Avenue, les Lutz ont rencontré William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo Jr. Weber songeait à faire appel pour son client, incarcéré au pénitencier de Dannemora. L'avocat, qui caressait aussi l'idée d'écrire un livre avec l'auteur Paul Hoffman, a proposé aux Lutz de se joindre à lui dans cette aventure littéraire. Leur expérience serait un ajout intéressant au livre et, par la bande, ajouterait de l'eau à son appel basé sur une défense de possession diabolique. Pour leur contribution, les Lutz recevraient 12 % des royautés. Ils ont refusé, préférant s'associer à Prentice Hall qui leur offrait davantage. Malgré le départ des Lutz, Weber et Hoffman ont continué d'exploiter leur expérience. En avril 1977, Paul Hoffman a vendu deux articles sur la hantise d'Amityville. Le premier au New York Sunday News et le second au Housekeeping Magazine. Ce commerce s'est fait sans l'autorisation des principaux intéressés, ce qui a eu pour effet de mettre le feu aux poudres. Prétextant une violation de leur vie privée, les Lutz ont poursuivi Weber et ses associés, ainsi que le New York Sunday News, Housekeeping Magazine et la Hearst Corporation, pour 4,5 millions de dollars. Les intimés n'ont pas tardé à réagir en contre-attaquant avec une poursuite de 2 millions, accusant les Lutz de rupture de contrat et de fraude. En première instance, le juge Jacob Mishler de la Cour fédérale de Brooklyn a débouté les Lutz dans leur poursuite contre les médias. Puis, en seconde instance, le 10 septembre 1979, le juge Jack Weinstein a rejeté la plainte des Lutz. Le juge en a aussi profité pour critiquer les méthodes de William Weber, qu'il a qualifié d'une éthique douteuse. En déclarant
« Une large portion du livre relève de la fiction. Une fiction basée en majeure partie sur les suggestions de M. Weber »,
à quoi l'honorable Jack Weinstein faisait-il référence? Libéré des contraintes que lui imposait la poursuite des Lutz, William Weber s'est confié au magazine People. Dans un article publié le 17 septembre 1979, une semaine après le jugement du juge Weinstein, L'avocat avouait que, pour l'essentiel, l'histoire d'Amityville avait été concoctée entre lui et les Litz lors d'une soirée bien arrosée. Il a ajouté que l'histoire de Jody, le cochon maléfique, avait été imaginée à partir du chat siamois des voisins que Ronald DeFeo Jr. se plaisait à qualifier de porc. Avec le temps, l'affaire s'est enlisée dans un épouvantable bourbier juridique, décourageant et empêchant tout enquêteur de séparer la vérité de la fiction. Au fil des ans, les Lutz auront été impliqués dans pas moins de 14 poursuites en lien avec les prétendues hantises d'Amityville. Après Amityville, les Lutz ont acheté une maison à San Diego, en Californie, où ils ont éventuellement divorcé. Cathy a déménagé en Arizona et George à Las Vegas. Cathy est décédée en 2004 et George en 2006. Ces nombreuses poursuites représentent des milliers de pages de documentation et l'audition de centaines de témoins. Les contradictions entre les plaignants et les défenseurs sont si nombreuses qu'il est devenu impossible d'en extraire la vérité. J'ai lu la transcription de plusieurs de ces actions juridiques et un livre entier ne suffirait pas à décanter toutes les incongruités. Je pense qu'avec le décès de Cathy et de George Lutz, la vérité sur l'affaire d'Amityville n'est plus une question de fait, mais une affaire de croyance. Qui plus est, dans cette joute où tout ne tient que dans les déclarations des uns et des autres, les joueurs oublient qu'aucune enquête sérieuse n'a jamais été menée au 112 Ocean Avenue. Il est vrai que le 6 mars 1976, les Warren et quelques accompagnateurs se sont rendus dans l'ancienne maison des DeFeo à l'invitation de Channel 5. Le groupe s'est baladé d'une pièce à une autre en écoutant les révélations médiumniques de Lorraine Warren et de la sensitive Mary Pascarella Downey. Ce n'est pas exactement ce que je qualifierais d'enquête sérieuse. C'est durant cette même visite qu'un photographe travaillant avec les Warren, Gene Campbell, aurait photographié un garçon fantomatique sur le seuil de l'ancienne chambre d'Allison DeFeo. Beaucoup croient qu'il pourrait s'agir du spectre de John DeFeo, l'un des enfants assassinés. Rien n'est moins sûr. Lors de la visite des Warren, Gene Campbell a placé au premier étage un appareil photographique infrarouge équipé d'un déclencheur automatique. Durant la soirée et une bonne partie de la nuit, l'appareil a exposé plusieurs films, des centaines de photographies. Ces clichés ont été remis au Lutz le lendemain. 3 ans plus tard, en consultant ces photographies, une amie des Lutz a remarqué la présence d'un visage aux yeux lumineux dans l'entrebâillement de la porte. Il pourrait s'agir d'un enfant se tenant debout derrière la rampe de l'escalier ou d'un homme agenouillé à l'entrée de la chambre. La photo fait à présent partie du folklore d'Amityville, malheureusement pour les mauvaises raisons. Des abonnés du Amity True Board, un site internet dédié à l'affaire d'Amityville, ont cru reconnaître dans ce fantôme Paul Bartz, un aide des Warren présent le 6 mars 1976. Sur d'autres photographies prises ce soir-là, on peut voir ce Paul Bartz habillé d'un pantalon clair et d'une chemise à carreaux. Or, en y regardant de plus près, le garçon fantôme semble lui aussi porter une chemise à carreaux. Drôle de coïncidence. Questionné en 2006 sur un babillard électronique, Paul Bartz a répondu que l'hypothèse était vraisemblable, mais que pour protéger la réputation des Warren, il préférait s'abstenir de commenter davantage, et ce, pour que se poursuive la légende de la maison la plus hantée d'Amérique. Outre la visite des Warren, la seule autre investigation à s'être tenue au 112 Ocean Avenue remonte à janvier 1976. À cette époque, la maison était vacante. Hans Holzer, un professeur de parapsychologie à la New York Institute of Parapsychology, s'est rendu dans l'ancienne maison des Lutz en compagnie de la sensitive Ethel Johnson Meyers. La médium y aurait capté non seulement les effluves négatives de Ronald DeFeo Jr. et de ses victimes, mais aussi celles d'Amérindiens en colère. Toujours selon la sensitive, le 112 Ocean Avenue aurait été érigé sur un ancien cimetière autochtone, une terre sacrée, d'où la violence des esprits. Là encore, une visite des lieux en compagnie d'un médium n'est pas ce que j'appellerais une enquête exhaustive. Qui plus est, en vérifiant auprès de la Société d'histoire d'Amityville, j'ai acquis l'assurance qu'aucun cimetière amérindien ne se trouvait sur ces terres. Un autre mythe sans fondement.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. À la fin du 19e siècle, le lot du 112 Ocean Avenue appartenait à John et Catherine Monahan. En 1924, ils ont engagé un entrepreneur local pour construire leur nouvelle maison, la désormais célèbre maison d'Amityville. Depuis, la propriété a changé de main à 10 reprises. Mis à part le drame de la famille Defeo et les prétendues hantises rapportées par les Lutz, aucun des locataires du 112 Ocean Avenue, maintenant le 108 Ocean Avenue, n'a jamais signalé la moindre manifestation surnaturelle. Il est clair que le livre de Jansen, The Amityville Horror, tient plus d'une suite de fiction que d'une histoire vraie. Mais une question continue de m'intriguer. Les Lutz ont-ils réellement tout inventé? Pour les sceptiques militants, poser la question, c'est y répondre. Mais cela ne veut rien dire. Par expérience, croyez-moi, les sceptiques sont prêts à manger à tous les râteliers, tant et aussi longtemps que le paranormal écope. Au gré de mon enquête sur l'affaire d'Amityville, j'en suis arrivé à la conclusion, et cela n'engage que moi, que plusieurs éléments suggèrent un peu de fumée avant le feu. Il ne fait aucun doute que les Lutz ont échafaudé leur récit des hantises, du moins tel que présenté dans le livre de Jansen, après leur première rencontre avec William Weber, l'avocat de Ronald Defeo Jr. Cette rencontre, au dire des deux parties, s'est faite au domicile de Mme Connors, la mère de Cathy Lutz, à la fin de janvier ou au tout début de février 1976. Dans cette perspective, si les Lutz ont tout inventé, on ne devrait pas trouver d'antécédent de hantise avant cette date, puisque c'est ce soir-là que l'idée leur serait venue. Mais ce n'est pas le cas. Le 12 mars 1981, dans sa déposition sous serment devant la Cour fédérale de Brooklyn, lors de sa poursuite contre les Lutz, Jansen et Prentice Hall, William Weber a admis que, lors de sa première rencontre avec eux, les Lutz lui avaient confié avoir vécu des choses étranges au 112 Ocean Avenue. Sous serment, Weber a déclaré
« Principalement, les Lutz disaient avoir souffert de changements qui les avaient affectés, eux et leurs enfants, durant le temps où ils vivaient dans la maison. Des comportements qu'ils n'arrivaient pas à expliquer et qu'ils attribuaient à des forces présentes dans la maison. »
Début janvier 1976, durant leur occupation du 112 Ocean Avenue, donc bien avant leur rencontre avec William Weber, les Lutz se sont présentés à la Société d'histoire d'Amityville. Ils désiraient en apprendre davantage sur l'histoire de leur maison. Dans une entrevue accordée en 1999 au journal local The Village Voice, le curateur de la Société d'histoire d'Amityville a expliqué que les Lutz voulaient savoir si d'autres personnes, avant eux, avaient évoqué la possibilité que la maison soit hantée. Toujours durant son occupation du 112 Ocean Avenue, donc toujours avant cette première rencontre avec William Weber, George Lutz s'est présenté au poste de police d'Amityville pour y remettre sa carabine. Il a déclaré à l'agent de service que sa maison était hantée et qu'à cause d'influences négatives, il craignait d'être victime d'une folie meurtrière. Ces exemples prouvent qu'avant même leur rencontre avec William Weber, et bien avant toute promesse de livre, les Lutz avaient confié à des tierces qu'ils croyaient leur maison hantée. Les sceptiques diront sans doute que les Lutz échafaudaient déjà à cette époque leur canular, souhaitant exploiter la popularité du diable au lendemain de la sortie du livre « L'Exorciste » en 1971 et du film « Éponyme » en 1973. C'est possible, mais c'est un peu gros. George Lutz n'était pas William Peter Blatty, l'auteur de « L'Exorciste », et surtout, il n'avait pas de contact dans le monde de l'édition. Dans ce contexte, difficile de continuer à croire que les Lutz aient tout inventé au lendemain de leur rencontre avec William Weber, alors que depuis des semaines, ils se confiaient au sujet de phénomènes étranges entre les murs du 112 Ocean Avenue. Je pense que les Lutz ont vécu des choses étranges au 112 Ocean Avenue, à savoir si ces manifestations étaient surnaturelles ou seulement psychologiques, le débat reste entier, même si je favorise l'explication psychologique. Il ne faudrait pas perdre de vue que les Lutz venaient d'emménager dans une maison qui, un an plus tôt, avait été le théâtre de la pire tuerie de l'histoire d'Amityville. Les lieux étaient-ils hantés par des entités diaboliques ou simplement par le souvenir de ces terribles meurtres? Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que les Lutz aient tout inventé, comme le soutiennent sans nuance les adversaires de cette histoire. Je pense qu'ils ont réellement cru, à tort ou à raison, que les lieux étaient hantés, et leurs enfants, très impressionnables, ont pu être influencés par l'état psychologique des parents. Cela dit, il ne fait aucun doute toutefois que le récit qu'ils ont entretenu par la suite, via le livre de Jansen et leurs nombreuses apparitions médiatiques, était très exagéré, voire en grande partie inventé. Leur souhait était de plaire à un public assoiffé de surnaturel et capitaliser sur un sujet à la mode. Les Lutz ont vite compris que toute vérité n'est pas payante à dire. Dans l'univers des médias, la vérité n'est pas toujours ce qui informe, mais souvent ce qui divertit. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.